Le voyage du Stradivarius Feuermann, un podcast interprété et raconté par Camille Thomas et Jérôme Collin.
Deuxième épisode, vie et mort d'Antonio Stradivari.
Notre histoire commence dans les environs de Cremone, une petite ville du nord de l'Italie baignée par le Pô. C'est là, précisément, au milieu du XVIe siècle qu'un certain Andrea Amati aurait inventé le violon moderne. L'époque ne fait pas de cadeaux, les guerres et les famines s'enchaînent jusqu'à l'arrivée de l'épidémie de peste en 1729 qui va pour un temps décimer Cremone, qui ne compte plus alors que le tiers de ses habitants. C'est dans ce contexte, dans les campagnes avoisinantes où ils se sont réfugiés pour survivre, que deux jeunes amoureux, Alessandro et Anna, vont donner naissance en 1644 à un petit garçon qui, ils ne le savent pas encore, va illuminer le monde pour les siècles à venir. Son nom ? Antonio Giacomo Stradivari. On n'a jamais trouvé trace de son acte de naissance, pas plus qu'on ne sait où il habita exactement les premières années de sa vie, mais les historiens s'accordent à dire que le jeune homme revint à Cremone à 12 ans pour intégrer l'atelier de Nicola Amati, petit-fils d'Andrea. C'est donc en 1656 qu'Antonio enfile pour la première fois le tablier du luthier, pour ne plus jamais le quitter. Il fabriquera des instruments à cordes jusqu'à sa mort, le 18 décembre 1737. Cet homme aura donc travaillé à parfaire son art durant plus de 8 décennies. Longtemps, Antonio restera l'élève et l'ouvrier de Nicola Amati. Les collages se doublent en effet d'une dette. Une fois formé, l'étudiant doit rester au service de son maître et il va donc, durant de longues années, découper, assembler, coller, vernir, fabriquer de nombreux instruments pour le compte de Nicola Amati. Il va aussi, par essai et erreur, affiner ses recherches et se préparer au grand saut, pour le jour où il pourra à son tour produire et signer ses propres pièces dans un atelier rien qu'à lui qui porterait son nom. Chez Stradivarius, tout est question de patience. Nicola Amati meurt en 1684. Antonio a alors 40 ans et 25 années d'écolage derrière lui. Il a acheté à Cremone une maison au numéro 2 de la Piazza San Domenico où il va s'installer et travailler jusqu'à son dernier souffle. C'est à ce moment précis que sa production s'emballe. Les historiens ont depuis identifié trois grandes périodes créatives. De 1680 à 1700, les instruments s'inspirent encore largement des méthodes de Nicola Amati. Les modèles sont de taille modeste. C'est l'époque des Stradivarius amatisés. La seconde période, qui s'étend de 1700 à 1710, est marquée par l'évolution des besoins en lutherie. Les salles de concert s'agrandissent, les musiciens ont besoin de brillance et de puissance vibratoire, qualité que ne procurent pas les instruments amatisés. En aplatissant les voûtes et en allongeant sensiblement le corps de l'instrument, Stradivari, qui approche des 60 ans, va trouver la solution au problème et percer le secret de toutes ces perfections combinées. Enfin, la dernière période va écrire sa légende. À partir de 1709, Antonio entre dans son âge d'or, il affine encore et toujours chaque détail et fabrique nombre de violons d'anthologie. Le Viotti en 1709, le Viotan en 1710, le Dauphin en 1714, l'Allard en 15, le Messie en 16. Mais aussi bon nombre de violoncelles, le Gorbout, le Duport, le Bata ou encore le Piatti. Côté vie privée, Antonio se mariera 2 fois. Avec Francesca Ferrabosca et la signora Antonio Maria Zambelli. Il aura 11 enfants, ce qui prouve, avant tout, qu'il avait au moins une autre passion que la lutherie. Antonio meurt le 18 décembre 1737, à l'âge avancé de 93 ans. Le cimetière attenant à la chapelle où il fut enterré a été détruit en 1869. Des registres de la commune stipulent à propos de ce malheureux événement: la destruction est un sacrifice imposé sur l'autel du progrès, de l'hygiène et des exigences de la civilisation moderne. Comme quoi depuis, rien n'a changé. Nous allons toujours de l'avant tête baissée, nous continuons de détruire et sacrifier sur l'autel du progrès, de l'hygiène et de la civilisation moderne. Et ce sans jamais penser, C'est vrai, ça. Qu'est-ce que je veux faire de ce monde? Qu'est-ce que je veux faire de moi? De nous? Pour Stradivarius, écrit le musicologue belge Fétis, la lutherie fut le monde tout entier. C'est donc le compas et l'outil à la main, le bonnet vissé sur la tête et un tablier autour du cou qu'il faut imaginer cet homme. Pas autrement. En effet, on ne peut que l'imaginer car il n'existe aucun portrait peint d'Antonio Stradivari. La seule description qui nous soit arrivée est orale. Elle provient d'un certain Signore Polledro, violoniste dont le maître avait connu Stradivari et lui en avait parlé en ces termes. Il était grand et maigre. Invariablement, on le croisait dans son habit de travail qui ne changeait jamais, parce que cet homme ne faisait rien d'autre que travailler.